France Info.
Bonjour à tous, bienvenue dans 8h30 Politique, un rendez-vous à retrouver chaque samedi à la même heure sur France Info Radio, France Info Télé, en compagnie de Yannick Halimi. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Et comme d'habitude, je vous laisse poser la première question à notre invité François Calfon,
bonjour.
Conseiller régional, bonjour, socialiste d'Île-de-France et membre de la direction collégiale du PS.
Du PS. François Calfon, bonjour.
Bonjour.
Vous savez ce qui se passe en ce moment, ce qui va se passer dans quelques heures à Lyon avec la partie La République En Marche qui va se donner un chef. Est-ce que vous, entre comme membre du Parti Socialiste, ça ne vous donne pas envie, un parti qui se donne un chef, qui a une discipline ?
Bah, ce qui ne me donne pas envie, c'est cette espèce de momentum dans un dîner, alors, voilà, que je ne qualifierais pas à l'Élysée, où Emmanuel Macron choisit quelque part, un peu comme le prince son vassal, celui qui n'est même pas son successeur, remarquez-le bien, puisqu'il ne prendra pas le titre de président d'En Marche, ce qu'était Emmanuel Macron, puisqu'il n'y a qu'un président, hein, dans sa vision jupitérienne, un tantinet méprisante, mais simplement délégué général avec une jacquerie, n'est-ce pas, d'un certain nombre de
petite,
députés.
Une mais, centaine pratiquement anonymes.
Enfin, vous savez, mais c'est déjà courageux. Parce que d'une certaine manière, parmi eux, parmi les 100 anonymes, et vous oubliez de dire qu'il y a 3 listes quand même, pour le collège exécutif ou le bureau exécutif d'En Marche. Il y en a même maintenant 4, pardon de le dire. Une nuit à rajouter sans doute une liste, parce que pour tous les marcheurs sincères, il y en a, je n'en doute pas, c'est en marche arrière toute, hein, et que d'une certaine manière, c'est la régression la plus totale. Avec un parti qui regarde la rénovation de la politique dans le rétroviseur.
Alors François Calfon et le parti La République En Marche, je précise, qui conteste ce chiffre de 100 marcheurs sur le départ et qui parle plutôt de 60.
Ça c'est, mais ça, c'est vraiment la vieille politique. C'est-à-dire qu'ils sont censés en avoir des centaines de milliers d'adhérents.
Oui.
En réalité, ils ont fait un débat vidéo sur Internet organisé en toute précipitation avec les 3 listes, maintenant 4. Et il y avait, selon vos confrères, hein, ça n'est pas moi qui parle, 300 personnes devant Internet. Donc on se demande où sont les centaines de milliers de marcheurs.
Polémique sur la démocratie interne, questionnement aussi sur Christophe Castaner. Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il doit porter les deux casquettes de secrétaire d'État et chef de parti ? On va vous poser la question, mais écoutez ce qu'on disait hier sur France Info, la députée La République En Marche de la Somme, Barbara Pompili.
Christophe Castaner, à un moment, il a à prendre des décisions claires. Et s'il se sent capable de faire des journées de 48 heures, tant mieux maintenant.
Ah.
Franchement, je crois qu'il serait très fort. Je peux vous dire que nous, moi, là, au poste que j'occupe, j'ai l'impression de faire des journées de 48 heures et pourtant, je n'ai qu'un mandat.
Ça vous gênerait qu'il occupe ces deux casquettes ? Vous pensez que c'est faisable ?
Ce
vous pensez que c'est souhaitable ?
La consécration d'un mélange des gens absolument total, c'est inconcevable pour le parti pivot de la majorité présidentielle. Donc ensuite, à chacun de savoir si c'est un petit meurtre entre amis et que quelque part, on s'assoit, on fait poliment une forme de bras d'honneur à l'ensemble des Français. Où est-ce qu'on tient compte des 80% de Français ? Non, c'est pas 80%, enfin d'une nette majorité de Français qui considèrent que ce serait un cumul. 70%.
Mais qu'est-ce qui vous choque, vous ? C'est le fait d'occuper le poste de secrétaire d'État, ministre, peu importe, avec le Parlement, ou d'être au gouvernement ?
C'est d'être au gouvernement.
Parce que ce n'est pas la première fois. Il y a un tas de
oui,
précédents.
Oui, mais il y a plein de choses qui sont...
François Bayrou.
Sans doute. Bravo, vous savez,
François Alain Juppé.
Mais sans doute, mais il y a des évolutions...
Nicolas Sarkozy, il y a eu énormément de
précédents.
Il y a
des évolutions de la vie politique. Après, chacun prend ses responsabilités. Je ne suis pas membre, ça n'est pas un scoop de La République En Marche. Mais il y a des évolutions de la vie politique qui font qu'on aime bien, d'une certaine manière, qu'il n'y ait pas de mélange des genres. Or, ce serait un mélange des genres assez insupportable. Moi, je constate simplement que M. Macron, en réalité, nomme finalement quelqu'un qui lui est un obligé.
Personne ne conteste la légitimité de M. Castaner, y compris au sein de La République En Marche. C'est plutôt la méthode.
Ça, c'est vous qui le savez. Il n'y a pas de vote. Vous savez, puisque vous comparez avec les autres partis politiques, pour la moindre circonscription, pour le vote du premier secrétaire chez nous, il y a un vote devant les adhérents et les militants. Donc vous dites personne ne conteste, parce que sans doute que la démocratie a En Marche, dans le rétroviseur si j'ose dire, finalement ne procède que d'en haut, et qu'en bas ils sont juste là pour marcher, et certainement pas pour voter.
Donc ce que vous dites en gros, c'est que finalement pour un parti qui se veut nouveau, moderne, et parfois, entre guillemets, donneur de leçons, dit ses contempteurs, là on est dans la politique à l'ancienne.
Mais c'est de la très très vieille politique.
D'accord.
Enfin, ça fait très longtemps qu'au Parti Parti socialiste est à gauche, vous pouvez vous interroger.
Et vous avez des débats chez vous, hein, ça.
Non, mais, d'accord. Ouais, on en a par exemple, je vous demande, puisque vous avez une culture politique livresque, ce qui est normal, depuis quand au Parti communiste il n'y a pas de courant, pas de vote pour le secrétaire national? Ça existait du temps où il y avait encore le mur de Berlin. Hein, aujourd'hui, y compris au Parti communiste, et ça fait fort longtemps, c'est quelque chose qui est consacré. Vous avez plusieurs candidats, vous avez cette démocratie qui s'exprime.
La politique moderne, pour vous, c'est d'avoir des frondeurs en son sein et un chef qui est sinon contesté, non, en tout cas qui ne fait pas l'unanimité.
La politique moderne consisterait à avoir des débats d'idées, des débats d'orientation.
Monsieur... parti n'est pas encore constitué véritablement.
Ah bon, bah écoutez, on va leur laisser...
C'est l'objet du congrès.
Il
n'y
a pas de problème, on va leur laisser le temps de se constituer, de savoir où ils sont, puisque ça aurait été un débat intéressant pour un congrès d'un vrai parti politique. Monsieur Macron s'est fait élire sur une promesse... de gauche et en même temps de droite. Il est de droite et en même temps de droite. J'ai compris, pour avoir discuté, c'est pas poreux, hein. Enfin, au contraire, c'est poreux, c'est pas imperméable. J'ai compris en ayant discuté avec un certain nombre de marcheurs. Oui, c'est le matin, des fois, c'est difficile. Qu'ils avaient mal à leur partie gauche, si j'ose dire.
François Calfon, je vous interromps, on a bien compris. Tout de même, on risque de se retrouver, le parti risque de se retrouver avec un numéro 1 qui vient de la gauche, M. Castaner, le groupe politique à l'Assemblée nationale est dirigé par Richard Ferrand, qui vient du Parti Socialiste lui aussi. Alors finalement, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, membre du Parti Socialiste?
Peut-être que c'est pour équilibrer la politique qui vient de la droite. Vous
peut-être,
voyez,
oui, mais enfin, voilà, il y a ce souci-là.
Finalement, la politique fiscale qui n'est que pour les super-riches, j'en passe, c'est des meilleurs, ça ne me pose aucune espèce de difficulté que M. Castaner ou M. Ferrand aient pu finalement s'épanouir comme personnalité de premier plan à La République En Marche, ce qu'ils n'ont pas forcément pu faire au Parti Socialiste.
Allez, vous restez avec nous, François Calfon, évidemment. Le 8h30 politique continue sur France Info. On va parler des territoires en colère que vous représentez dans un instant à 8h40. Sur France Info, c'est l'info avec David Deba.
Et direction Lyon pour La République En Marche. C'est là que Christophe Castaner devrait donc officiellement devenir délégué général du parti. Aucun suspense, il est le seul en course. La République En Marche qui compte sur ses proches d'Emmanuel Macron pour donner un nouvel élan au parti. Christophe Castaner qui pourrait être contraint, comme le souhaite d'ailleurs un certain nombre de députés, de quitter sa casquette de porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri à Paris pour quelques jours. Il le rencontrera à la mi-journée Emmanuel Macron. Une visite destinée à tenter d'apaiser la tension après sa démission surprise annoncée depuis Riyad. La marine argentine n'est toujours sans nouvelles de l'un de ses sous-marins militaires. Il naviguait dans les eaux de l'Atlantique Sud avec 44 personnes à bord. Il avait quitté Ushuaïa pour rallier son port d'attache. Les opérations de recherche sont en cours. Il pourrait s'agir d'un simple problème technique. L'OSC s'est imposé 3-1 sur Saint-Etienne. Amiens et Monaco ont fait match nul 1 partout. Suite de la 13e journée de Ligue 1 ce soir avec 5 matchs au programme, notamment à 17h le déplacement de Nantes sur le terrain du Paris Saint-Germain.
8h30 politique sur France Info, toujours avec Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, et notre invité François Calfon, conseiller régional socialiste d'Île-de-France, membre de la direction collégiale du PS. À votre initiative, mercredi a été signé un appel des territoires en colère. Est-ce que vous considérez que la République et Emmanuel Macron abandonnent presque sciemment des territoires?
Je considère qu'il y a une sorte de procès à l'endroit des territoires, à l'endroit des collectivités locales qui est instruit par M. Macron. Et finalement, pourquoi il est instruit? Parce que d'abord...
Procès, carrément, vous assumez le terme.
Oui, vous savez, quand vous mettez au pain sec et à l'eau, et c'est quand même un peu le cas, les collectivités locales, en leur imposant 13 milliards de moins de dépenses, alors que l'État lui-même n'est pas vertueux, quand vous faites disparaître les contrats aidés... Alors, je veux apporter...
Réduire.
Je vais apporter une précision quand même qui est intéressante pour nos auditeurs. Un contrat aidé, ça coûte grosso modo 11 000 euros par an à l'État. Et ça permet à des gens de travailler dans le secteur associatif. Vous savez, chez moi, c'est Farid qui tient une épicerie solidaire. Ailleurs, c'est Lucie qui distribue les repas aux gens qui sont en difficulté. Bref, c'est le tissu social. Ça coûte 11 000 euros par an à l'État. Je ne parle même pas de l'emploi CICE qui en coûte des centaines de milliers d'euros. Un chômeur, ça coûte 9 000 euros. Est-ce que pour un delta de 2 000 euros, il n'est pas mieux que ces gens soient au travail et qu'ils permettent de tenir une épicerie solidaire, par exemple, en zone rurale? C'est une question qui peut être posée. Eh bien, tous les choix qui ont été faits, puisque vous m'avez posé une question précise, j'y réponds précisément, sont contre les territoires et contre ce lien social, alors que vous avez 90% du territoire national géographiquement qui décroche et que vous n'avez que 40% des gens qui vivent dans les métropoles, c'est-à-dire que 60% des gens sont abandonnés par cette politique. Le monde HLM, on lui fait les poches, c'est tout à fait indigne.
Avec la baisse des
APL. On lui fait les poches, on baisse la dotation aux collectivités locales. Voilà, et surtout, alors c'est un peu plus...
Pas pour 2018, François Calfon.
Oui, bien sûr, mais là, c'est 13 milliards sur 5 ans. Et
d'économie.
Au-delà de ça, sur les économies, ce que vous appelez des économies, et que j'appelle finalement une véritable... prédation des finances locales. Au-delà de ça, on reprend la main, on reprend le pouvoir, on recentralise le pouvoir en supprimant l'autonomie, la liberté, la libre administration des collectivités locales.
Alors voilà, justement, derrière tout cela, ces mesures, disons, financières, vous estimez d'ailleurs, vous, à gauche, comme beaucoup d'élus locaux du centre et de droite, vous estimez que Emmanuel Macron a une volonté de recentraliser la France et de remettre en cause la décentralisation qui existe, qui se déploie en France depuis plus de 30 ans.
Surtout en Île-de-France.
Vous savez, l'inspection des finances, la direction du Trésor n'ont jamais accepté au fond, et ça date d'il y a longtemps, les lois de décentralisation, c'était en 82, n'ont jamais accepté au fond de se dessaisir de ce que l'État possédait, c'est-à-dire finalement la possibilité de contrôler, y compris les collectivités locales. Et la deuxième chose, c'est que M. Macron a cette culture de Bercy, que je viens de décrire, et cette culture du privé, hein, qui considère que une entreprise qui n'est pas dans les radar des autoroutes européennes devient non pas un centre de profit mais un centre de coût. Vous voyez d'ailleurs qu'avec les ordonnances loi travail, on va pouvoir fermer des entreprises bien plus facilement. Il y a des plans sociaux. Non,
mais en quoi François Calfon, en quoi les pouvoirs des collectivités locales, notamment des maires ou des départements, vont être véritablement remontés vers l'État?
Je vous en donne un exemple très précis. Aujourd'hui, il va fixer le plafond des annuités de remboursement d'emprunt.
Alors,
ça fait doucement rigoler quand on voit l'état des finances de l'État. À 13 années, eh bien, si vous ne faites pas ces 13 années d'annuité de remboursement d'emprunt, vous allez construire un dialogue de gestion avec le préfet, autrement dit, une recentralisation, pour qu'il vous donne ou non les dotations de l'État. Si ça, c'est pas une tutelle politique qui avait disparu avec les lois de décentralisation et qui réapparaît, je ne sais pas ce que c'est.
Alors, il ne vous aura pas échappé que dans un mois précisément, on saura qui est le président des Républicains, le parti de droite qui est en train de se chercher un chef, peut-être comme le PS. On va y venir dans une autre partie dans cette interview. Écoutez, avant de vous poser la question sur qui vaut-il mieux comme adversaire, ce qu'en disait cette semaine sur France Info, Guillaume Pelletier, porte-parole des Républicains.
Je viens de dire qu'elle était malade, la droite. Mais la droite va revenir. Je souhaite que la droite française tourne le dos à l'embourgeoisement, tourne le dos à l'obsession des courbes, des graphiques, des taux de PIB, de TVA, de CSG, et redonne du sens.
Mais Guillaume
du
Pelletier,
sens sur un certain nombre de sujets, les questions identitaires comme les questions économiques.
Pour l'instant, c'est Laurent Wauquiez qui est grand favori de ce scrutin. Ils sont trois candidats. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit élu? Et surtout, est-ce que sa ligne politique, on va dire, proche de ligne identitaire, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure solution pour le parti de droite?
Alors, est-ce que je souhaite qu'il soit élu? J'ai pas à commenter qui doit être élu, quelque part, à troubler ce jeu. Moi, je ne suis, là encore, ça n'est pas un scoop, je ne suis pas de droite, donc je n'ai pas à commenter ça. Ensuite, et ça renvoie à l'ensemble des partis politiques qui ont turbulé, il faut bien le dire. Il y a des débats de nature politique, de nature identitaire, au sein de chaque famille politique. Et on voit bien que la droite, mais y compris le Front National, parce que s'il y a Monsieur Wauquiez, c'est qu'en regard, vous avez cette crise, avec une extrême droite qui était tentée par un néo-gaullisme autoritaire d'un côté et une extrême droite beaucoup plus traditionnelle et libérale de l'autre, vous voyez bien qu'il y a des ponts et des connexions qui sont en train de se faire. L'évolution de Monsieur Wauquiez, si j'ose dire, est-elle opportuniste, est-elle idéologique? Je n'ai pas à la commenter. Il avait commencé avec Monsieur Barrot comme centriste et chrétien. Il finit peut-être demain avec Madame Marion Maréchal Le Pen. Je ne préfigure pas de son évolution, mais voilà là, quel est le point. Ensuite, quelle est la difficulté de la droite? Je me fais deux secondes commentateur et pas plus. C'est qu'en réalité, La République En Marche a pris l'ensemble du territoire de la droite, si j'ose dire, ouverte et libérale, Et surtout de la droite économiste, avec M. Le Maire ou avec M. Darmanin, qu'il n'y a plus d'espace pour cette droite-là, puisqu'elle a pris le pouvoir.
Ce qui est le cas aussi pour une partie du Parti Socialiste,
hein, qui a tout de même rejoint la République. Avec beaucoup de plaisir.
Mais vous parliez justement des questions identitaires qui traversent l'ensemble des partis. Ça traverse aussi la gauche et le Parti Socialiste. Première question très concrète, que pensez-vous des prières de rue de la part de musulmans dans les villes comme Clichy-la-Carène? Allez-y,
eh ben écoutez, c'est très simple. Je pense, et d'ailleurs nous l'avions fait quand nous étions en responsabilité, que quelle que soit la religion, les prières dans la rue ne sont pas dignes. Et donc elles ne doivent pas exister en République. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de beaucoup plus, si j'ose dire, avec des conséquences. Je suis contre toute instrumentalisation des prières de rue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis contre l'instrumentalisation des prières de rue par les salafistes. Et il ne faut pas être naïf sur cette opération de Clichy. Il y a des gens qui n'ont pas de lieu de primaire, de prière et qui veulent pris, si j'ose dire, de bonne foi, mais il y a une instrumentalisation par les salafistes. Et puis la deuxième chose, je suis contre l'instrumentalisation des prières de rue par les élus. Et quand Madame Pécresse, eh bien, quand vous faites une manifestation de rue face aux musulmans qui prient dans la rue, eh bien, quelque part, vous êtes dans l'instrumentalisation de la prière de rue à votre tour. Moi, si j'avais été élu de Clichy et que le préfet, parce que on peut toujours renvoyer les uns aux autres, mais c'est à Monsieur Macron, c'est à Monsieur Collomb qu'il incombe qu'il n'y ait pas de prière de rue et qu'il y ait des lieux dignes.
Donc il faut multiplier
je vais vous dire une chose.
Non, mais de prière.
Non, mais parce que les gens sont...
Les mosquées,
je ne suis pas dilatoire. Ils seraient allés à la préfecture manifester contre le fait que l'État n'offre pas de lieu digne de prière aux musulmans dans la commune de Clichy. Ils ont été fondés à le faire. Mais vous voyez bien que ça n'est pas ce qui s'est passé. Il y a une forme d'instrumentalisation réciproque. Et pourquoi je suis contre cette forme d'instrumentalisation réciproque? Parce que nous aboutissons à une certaine vision de tension communautaire, de choc des civilisations.
Est-ce que le Parti Socialiste n'a pas une part de responsabilité? Est-ce qu'elle n'a pas fait passer un peu le communautarisme derrière le concept un peu des questions sociales?
Écoutez,
c'est un peu
l'idéologie
Terra Nova. Est-ce que le Parti Socialiste n'a pas péché par communautarisme?
Le Parti Socialiste,
dans les années 90-2000.
Peut-être que vous voyez des choses, moi je ne les vois pas. En tout cas, moi j'ai toujours été parfaitement républicain. Et vous savez quelle est ma religion, hein, en latin, en religion, ça veut dire religere, relier. Ma religion, c'est la laïcité. C'est cette morale commune. La laïcité, ça n'est pas une neutralité. C'est de l'amour, finalement, de la République et de la patrie en ce qu'elle a de supérieur aux croyances particulières des uns et des autres.
Allez, dans un instant, dans l'8h30 politique, on parle du Parti Socialiste. Il y a pas mal de choses à dire également, des choses d'actualité brûlantes même quelque part. On va en parler avec vous, François Calfon. 8h50, David Doba de retour pour l'info.
Et l'avion de Saad Hariri s'est posé ce matin, peu après 7h30, sur la piste de l'aéroport du Bourget. Le Premier ministre libanais démissionnaire doit déjeuner à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Une arrivée qui intervient en pleine polémique. Polémique qui est en train de voir le jour, puisque Saad Hariri aurait une dette de 13 millions d'euros envers d'anciens salariés, des Français qui travaillaient pour une filiale de son groupe de BTP en Arabie Saoudite. Et selon les informations de France Info ce matin, une autre ardoise reste impayée, 5 millions d'euros non versés à des organismes sociaux. La République En Marche porte à sa tête Christophe Castaner ce matin. Le parti présidentiel compte sur ce proche d'Emmanuel Macron pour tenter de trouver un nouvel élan. Une mobilisation qui intervient alors que 101 marcheurs ont claqué la porte hier. Tout ça pour ça, fin de la 23e conférence sur le climat, des paroles mais au final pas beaucoup d'actes. Les participants se sont mis d'accord pour lancer un processus de dialogue d'un an. Objectif, évaluer le chemin qu'il reste à accomplir pour rester sous les 2 degrés de réchauffement comme le stipule l'accord de Paris. Et puis avec 5 défaites consécutives au compteur, le 15 de France va tenter de redorer son blason ce soir. La partie s'annonce tout de même assez compliquée face aux Sud-Africains. On parle évidemment de rugby. Le coup d'envoi, c'est à 21h.
France Info. Dernière partie de 8h30 politique sur France Info avec Yannick Halimi et notre invité François Calfon, conseiller régional socialiste d'Île-de-France, membre de la direction collégiale du PS. Yannick.
Oui, François Calfon, Gérard Filoche, qui est un membre éminent du Parti Socialiste, qui a failli être candidat à la primaire, hein, d'ailleurs, du Parti Socialiste pour la présidentielle, a lancé un tweet assez éberluant, si je puis dire, montrant, c'est une photo, je fais très rapide
allez-y,
pour nos
allez-y,
auditeurs.
Allez-y, décrivez, parce que pour les gens qui nous écoutent.
Montrant, merci, Emmanuel Macron à une tribune, les bras ouverts, avec un brassard noir et rouge, rappelant le drapeau nazi, mais c'est un dollar qui est au milieu. Il est entouré de Jacques Attali, de Jacob Rothschild, de Patrick Drahi, trahi, avec un drapeau israélien sur la photo à droite, un drapeau américain sur la photo à gauche, avec comme texte En marche vers le chaos mondial. Un sale type, les Français, parlant d'Emmanuel Macron, vont le savoir tous ensemble bientôt. Est-ce que vous êtes pour l'exclusion de M. Filoche du Parti Socialiste?
Alors, je dois dire, j'avais vu cette image avec le brassard, mais je n'avais pas vu les drapeaux américains, israéliens, les personnalités qui
trois personnalités juives, évidemment, derrière,
je n'avais pas vu ça.
En tout cas, de culture juive.
Je dois dire, j'espère que ça a échappé à M. Filoche, mais en tout cas...
Échappé? Comment pouvez-vous dire ça? C'est
un tweet. J'ai... Non mais attendez, vous, ne vous inquiétez pas, laissez-moi répondre, vous allez voir.
Il l'a retiré, mais il s'est justifié assez maladroitement.
Bon, en tout cas, cette image est totalement abjecte, hein, je tiens à le dire. Et cette tendance qui existe à gauche... finalement, de confusion du monde, de l'argent et des juifs. Moi, j'appelle ça... Enfin, ça nous renvoie aux années...
Vous cette confusion à gauche entre
mais les... Elle existe. Et j'entends régulièrement des gens assimiler telle ou telle nation, régulièrement inscrite aux Nations Unies, comme un État raciste, et ceux qui, finalement, auraient la religion de cette nation, par construction, comme des racistes potentiels qu'il faudrait éliminer. Enfin, faut avoir la force. Moi, je ne suis pas Monsieur Valls, et je vais dire pourquoi, mais faut avoir la force d'être tout à fait lucide sur ces sujets-là. Ça pose un grave problème. Moi, je ne me reconnais pas, et même si je peux avoir... Je suis halluciné d'ailleurs, hein, je découvre un peu ça. Ça pose un grave problème d'appartenance au Parti Socialiste et il faut que Monsieur Filoche, nous avons des instances pour ça, puisque je découvre.
Une procédure va être lancée.
Je ne sais pas, mais je souhaite qu'il puisse s'en expliquer devant nos instances parce que je ne reconnais pas ce. Je ne reconnais pas le Gérard Filoche que je connais, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je dois avoir. Comment dire, la lucidité de voir cette image et de ce commentaire.
Bon, on va évoquer la refondation dans un instant du PS, hein, et le congrès qui est prévu en mars, mais puisque vous parlez de Manuel Valls, il était cette semaine notamment chez nos confrères de RMC BFM, il s'est exprimé sur le conflit qui a opposé ces derniers jours Charlie Hebdo et Mediapart. On écoute.
Je veux qu'il recule, je veux qu'il rende gorge, je veux qu'il soit écarté du débat public, non pas par l'interdiction, c'est pas le sujet.
Qu'il rende gorge.
Qu'il perde ce combat et cette guerre que nous menons.
Et qu'il perde leur crédit.
Mais cette guerre d'idées, cette bataille d'idées, c'est celle-là que nous menons. Nous la menons pour la République et je la mène pour les musulmans de France. Parce que c'est nous qui les protégeons, c'est pas Monsieur Plenel et ses sbires.
Alors, comment vous expliquez ce ton véhément, assez, même presque martial en ce moment, de votre ancien collègue socialiste Manuel Valls?
Mais vous savez, j'ai l'impression que quand il y a une difficulté, nous sommes dans une crise. Il y a des crises à droite, il y a une crise à gauche. Il y a ceux qui essaient d'être résilients, et j'en fais partie avec d'autres, hein, je suis pas. Et il y a ceux qui, quelque part, ont une jubilation ou une incapacité à rebondir face à une crise. Et vous avez une crise qui existe à gauche dans le monde médiatique, entre Charlie Hebdo et Mediapart, et on s'envoie des noms d'oiseaux qui m'hallucinent, puisque personne ne sait garder raison dans cette affaire. Et moi, je le dis avec force sur le fond, ça n'est pas au débat républicain laïque de notre pays d'être structuré par ceux qui seraient du côté de telle communauté. Ça renvoie à ma condamnation qui est sans
c'est
appel.
C'est pas le cas de Manuel Valls, ça.
Attendez, je le redis parce que j'étais un petit peu interloqué par les détails de cette image que je n'avais pas vue. Ma condamnation sans appel de ce tweet de Monsieur Filoche. Mais pour élargir et revenir à notre sujet, nous sommes sommés finalement d'avoir à choisir entre ceux, et je trouve ça choquant, hein, qui seraient du côté des Juifs de France, et ceux qui seraient finalement du côté de l'islam, et cela me choque absolument. Et je crois que, en réalité, je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il nous faut, c'est avoir des principes clairs, surtout en ce moment, hein, ne pas jouer avec le feu. On a parlé des manifestations de rue et de leur instrumentalisation, et être tout à fait finalement.
Vous trouvez que Manuel Valls joue avec le feu avec de telles
propos? Je pense qu'il y a. Vous avez diffusé un extrait. Merci de le faire. Une passion, comment dire. Et d'ailleurs, c'est le sens de votre question, avec une certaine violence dans l'expression, qui, surtout sur ce sujet-là, n'est pas de saison. J'ai entendu d'aucuns parlementaires nouveaux avoir comme ça une vision qui me choquait également.
François Calfon, il nous reste une minute, ça va vite, malheureusement. Le Parti Socialiste tiendra congrès au mois de mars. Est-ce que vous-même, parmi les candidats potentiels, vous êtes tenté d'en prendre la direction ?
Je ne vois pas les choses comme ça. Par contre, ce que je vois, c'est que tous les matins, il y a quelqu'un dont on dit qu'il pourrait être candidat, et je ne vois aucune contribution à la rénovation de la gauche. Moi, ce que je vais faire, et je l'annonce ici, ça n'a pas été fait, avec quelques amis, j'ai déjà contribué sur la question des territoires, je continuerai à le faire, c'est que je vais produire un texte manifeste sur l'avenir de la gauche.
Ces grandes lignes.
Oui, et puis sur les questions stratégiques.
Quelles sont les grandes lignes dans les temps ?
Eh bien, c'est simplement de ne pas être sur la rétrospective. Sur le passé, nous dirons ce que nous avons à dire.
Sur l'Europe.
Alors, sur l'Europe, il est clair que, par exemple, je le dis tout à fait nettement, nous ne pouvons plus concevoir l'Europe et maintenant l'Europe sociale. Il faut concevoir l'Europe comme un ensemble qui doit construire de la justice sociale. C'est la question du travail détaché.
En sortir ou pas ?
Ah non, pas en sortir, mais certainement avoir une approche plus réaliste. Et par exemple, il y a un mot qui est tabou au Parti Socialiste, c'est le mot frontière. Et si nous voulons une Europe qui fonctionne, c'est une Europe qui se protège, notamment du dumping social et fiscal, et puis qui protège tout simplement
Arnaud Montebourg, sortez de ce corps.
La doctrine d'Arnaud Montebourg,
vous reviendrez quand vous serez officiellement candidat à nous voir. François Calfon, merci d'être passé ce matin pour 8h30 Politique. Merci, Jannick Halimi. À samedi prochain. Merci à tous.